Monsieur le Président, distingués membres du Conseil de sécurité, Madame Marie-Madeleine Kalala, membre de African Women Leaders Network à Wolin, je vous remercie de l'opportunité qui m'est accordée de m'adresser à vous pour vous présenter la situation actuelle en République démocratique du Congo suite à la publication du dernier rapport du secrétaire général. Je me réjouis de pouvoir faire cette présentation en personne après une longue période d'interaction à distance en raison de la pandémie du COVID-19. Dans mes allocutions récentes au Conseil, j'avais souligné les principaux défis et opportunités, notamment en matière de protection des civils à l'est du pays. Ces défis sont toujours d'actualité. C'est dans ce contexte que le 30 novembre dernier, les forces armées de la République démocratique du Congo ont initié des opérations militaires conjointes avec l'armée ougandaise contre les forces démocratiques alliées ADF. Les frappes aériennes et d'artillerie contre les positions des ADF au Nord Kivu et en Ituri ont été suivies le même jour par l'entrée d'unités ougandaises sur le territoire congolais à Nobili, au Nord Kivu, qui se trouve ensuite dirigée vers la zone de Kamango à 50 km de Beni. À l'heure actuelle, les opérations au sol se poursuivent pour neutraliser les combattants ennemis dans les zones des bombardements. Dans mes interactions avec les plus hautes autorités des deux États, j'ai pris note de la décision souveraine de mener cette action militaire conjointe et j'ai souligné la nécessité absolue de mettre en place des mécanismes opérationnels de coopération afin d'assurer la sécurité des casques bleus des Nations Unies et de permettre à la mission de continuer d'appuyer les FRDC dans la protection des civils et la neutralisation des groupes armés, conformément au mandat qui lui a été accordé par ce Conseil. Ces mécanismes sont en train d'être mis sur pied. À cette fin, le 2 décembre, le commandant de la force de la MONUSCO s'est rendu à Kampala pour définir avec les autorités les modalités pratiques de cette coordination tripartite qui couvrira, entre autres, les aspects liés à la sécurité de l'aviation, la protection des forces participant aux opérations et l'accès humanitaire aux populations affectées. Demain, le commandant de la force sera à Kinshasa pour rencontrer la hiérarchie militaire des FRDC afin de poursuivre ce dialogue initié à Kampala. Je tiens également à souligner que la MONUSCO, dans le cadre de son mandat, va continuer de suivre et rapporter toute violation éventuelle des droits humains commises sur le territoire congolais. Il convient de rappeler que dans l'optique de répondre aux défis sécuritaires à l'est du pays, les autorités congolaises avaient déjà décidé en mai dernier de déclarer l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, dont la durée vient d'être prorogée pour la 13e fois. Compte tenu des difficultés liées à la mise en œuvre des nombreuses critiques qui en ont résulté, la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale a procédé à une évaluation de l'état de siège et formulé des recommandations au gouvernement, tant au niveau sécuritaire que de l'administration territoriale ou de la justice. Je tiens à saluer ici cette démarche constructive et démocratique acceptée par le gouvernement. Une commission interinstitutionnelle dirigée par le ministre de la Défense est en train de procéder à une évaluation complémentaire en consultant la population et la classe politique locale dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Ces consultations sont également un pas dans la bonne direction. Les défis auxquels le gouvernement est confronté dans la mise en œuvre de l'état de siège mettent en exergue les limites d'une approche strictement militaire à la protection des civils et la neutralisation des groupes armés. La période de l'état de siège a vu en effet une augmentation de 10% du nombre de violations et abus des droits de l'homme dans le pays, comparée à la période précédente, attribuable dans la grande majorité aux groupes armés et aux forces de sécurité dans les deux provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Une solution durable à la violence à l'est de la République démocratique du Congo nécessite un engagement politique plus large pour s'attaquer aux causes profondes des conflits. Afin que la stabilité revienne à l'est du Congo, l'État doit réussir à restaurer et à maintenir la confiance de la population en sa capacité à protéger, administrer, délivrer la justice et répondre à ses besoins essentiels. Je l'ai souligné régulièrement dans mes échanges avec le chef de l'État et avec la primature. Monsieur le Président, distingués membres du Conseil, la situation humanitaire continue de se détériorer à l'est du pays en raison de l'insécurité et des épidémies, combinée à un accès limité aux services de base. Le nombre de personnes déplacées dans le pays se situe à près de 6 millions, dont 51% de femmes. Il s'agit du nombre le plus élevé de personnes déplacées à l'intérieur du pays sur le continent. À cela est venue s'ajouter l'apparition de nouveaux cas du virus Ebola. Je voudrais à cet égard saluer l'implication des partenaires humanitaires qui se sont rapidement mobilisés pour aider le ministère de la Santé à prévenir la propagation de la maladie. Je saisis cette occasion pour réitérer l'appel aux partenaires internationaux et aux donateurs pour redoubler leurs efforts dans le cadre du plan de réponse humanitaire pour la République démocratique du Congo, qui n'a reçu à ce jour que 34% du financement nécessaire. Monsieur le Président, distingués membres du Conseil, à la suite de la mise en place du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, PDDRCS, le gouvernement a établi un groupe de travail technique conjoint pour assurer la coordination entre les Nations unies et les autorités congolaises dans l'opérationnalisation de ce programme. J'espère que ce groupe servira d'instrument pour catalyser le soutien international au programme. Je voudrais ici encourager le gouvernement à procéder sans délai à la nomination des coordonnateurs provinciaux du PDDRCS. J'invite la coordination nationale à sensibiliser tous les acteurs concernés, y compris les forces de défense et de sécurité, sur la nature civile et décentralisée du programme, privilégiant la réinsertion communautaire des combattants et bannissant toute amnistie et intégration automatique dans l'armée, conformément aux principes arrêtés. Le soutien international et la réussite du programme en dépendent.